Nous sommes salle Hockey Game à Tours, avec Nicolas Sansarla, bonjour.
Bonjour.
Donc directeur artistique de l'ensemble Diabolus in Musica à Tours, vous êtes violiste. Et il y a également ici Timothée Hélène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste du dire, auteur de théâtre, metteur en scène, vous faites des récitals de voix parlée, de poésie dans toute la France. Alors vous êtes actuellement en résidence ici, dans cette salle Hockey Game. C'est une résidence de création qui associe aussi Axel Tanby-Bernage qui est mezzo-soprano, Louis Capeille qui est harpiste. Vous travaillez sur un spectacle poético-musical appelé « À même l'immense » autour de poèmes à dire, de poèmes à chanter, de poèmes parlés-chantés. Donc le public est d'ailleurs convié à une sortie de résidence ce vendredi 9 janvier, salle Hockey Game, donc de 18h à 20h. Alors peut-être que nos auditeurs fidèles se souviennent qu'en 2016, vous proposiez « Amour, amour », c'était un voyage à travers les siècles, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, avec des textes sur le thème de la passion amoureuse, de l'amitié, l'amour filial, le désir ou même l'absence de l'être aimé. Donc justement, il y avait Timothée Hélène qui était 10 heures de poésie et vous étiez accompagné par la soprano Julia Godin, par Nicolas Sansarla à la vielle et Antoine Gerber à la harpe et aux percussions. Alors, est-ce qu'il y a une filiation entre ces deux spectacles ? Est-ce que vous avez gardé la trame ou alors est-ce que c'est quelque chose de complètement différent ?
Il y a des choses communes et puis des choses différentes. Les choses communes, c'est qu'il y a cette alternance de textes parlés et de chants. Et puis il y a aussi l'aspect de médiéval et contemporain, à la fois mélangé. Donc ça, c'est ce qu'il y a de commun. Et la différence, c'est que Timothée, là, aujourd'hui, nous propose son texte, alors que dans Amour, amour, c'était que des textes déjà existants, d'autres auteurs.
Qu'est-ce que vous voudriez nous dire de ce texte, alors ?
Ben, je pense que le travail que nous avons fait à Chambord en 2024, c'est là qu'il y a eu un déclic, parce que ça a été, c'était un autre programme. Hein, je crois que c'était des chants italiens du 14e que Diabolus proposait, et moi c'était des extraits du Décaméron de Boccace. Donc, ça a été quand même un émerveillement d'être... dans les jardins du château de Chambord. Et cette idée de l'immense m'est devenue importante. Et si bien que j'ai pensé que, comme le presque rien, l'immense peut nous construire, nous nourrir. Et à partir de là, j'ai eu un désir d'écrire. Et j'en ai parlé à Nicolas, qui m'a encouragé. Et donc la collaboration est née comme cela.
Mais en fait, c'est une vieille histoire, entre guillemets, votre collaboration entre l'ensemble Diabolus in Musica et vous. Du coup, comment elle grandit, comment elle évolue, comment elle avance, cette collaboration ?
Alors, je peux juste dire, on pourrait dire, la première étape, ça a été cette proposition de « Amour, amour », dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y en a eu une deuxième, à mes yeux, c'était un atelier d'écriture que nous avons fait à La Riche, avec 12 personnes de La Riche qui sont venues écrire. Et après plusieurs séances d'écriture, Diabolus in Musica, enfin Nicolas est venu, Axel, Tanby-Bernage est venu, et ils ont mis en musique les textes de toutes ces personnes qui ont écrit. Et ça a été, pour moi, ça a été un émerveillement. Enfin, là aussi, j'ai été bouleversé, j'ai été happé. Enfin, bon, ça m'a bousculé, quoi. Et donc, ça fait partie aussi de... Ça fait naître la troisième étape, qui était de m'engager en tant qu'auteur dans la collaboration avec Diabolus.
Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve. soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles, en été un jour au soleil, au soleil. Regardez dans le soir qui penche, la pince au poilier qui balance, quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur, vos cris me dérangent, je rêve. Basse dans ce contre-jour et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt au soir qui penche, la pince, voilier qui balance, quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur, et nous pourrons vivre mon rêve.
C'est quoi la différence entre un texte lu, un texte chanté et un texte chanté parlé, lu parlé ?
Un texte lu, ça va de soi, on lit le texte. Un texte chanté, c'est un texte sur lequel on pose une mélodie. Et un texte chanté parlé, c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a cette liberté de la parole qui est lue et à la fois la contrainte, mais ce que peut apporter la musique au-delà de la parole parlée, quoi.
Alors comment on Diabolus in Musica, comment disons, on habille un texte de musique ? Est-ce que c'est la musique qui s'impose au texte ou est-ce que c'est l'inverse ? Comment vous faites matcher entre guillemets la musique et
Il y a plusieurs possibilités. Donc je pars toujours du texte de toute façon. Et après, selon la structure, l'organisation du texte, du nombre de syllabes, du nombre de vers, soit je compose quelque chose de nouveau dans le style, dans un style donné, ou soit on va chercher dans le fond déjà existant de musique médiévale ou autre, et puis on voit ce qui peut coller le mieux au texte proposé par Timothée, et éventuellement on adapte pour que la prosodie soit claire, c'est-à-dire l'art de mettre les bonnes syllabes sous les bonnes notes. Donc voilà. Et puis il y a un troisième volet qui est celui de l'improvisation. C'est-à-dire que le texte est là, mais on va improviser un chant sur le texte donné par Timothée.
Et vous, de votre côté, est-ce que la musique, comment ça se passe ? Est-ce que vous... Bonjour. Est-ce que vous... Comment dire ? Vous concertez sur l'habillage musical de votre texte ? Comment ça fonctionne ?
En fin de compte, je découvre la musique. Et quand je la découvre, ça me fait entendre le texte différemment. Ça réinvente le texte. Et c'est vraiment un échange. Je sens que... alors que quand j'ai écrit tout au début, je suis vraiment dans un travail d'écriture. Et là, précisément... parce que je pensais à Diabolus, j'ai voulu travailler dans une structure très stricte au départ. C'est-à-dire des poèmes qui font penser aux rondeaux, des dizains, vous voyez, des choses très, très formelles, quitte après laisser respirer, osciller, tout ça. Mais quand j'entends la musique, le travail de Nicolas... l'oscillation devient plus importante et puis il y a des choses qui se révèlent, il y a des choses, j'entends autrement le texte, enfin c'est vraiment une découverte et c'est le partage, c'est l'échange.
C'est-à-dire que vous avez fait de l'écriture sous contrainte, entre guillemets, pour aboutir à ce projet ?
En tout cas, si c'était une contrainte, ce sont une contrainte que j'ai désirée.
Formelle, désiré, formelle.
Oui, une formelle, mais que j'ai... C'est-à-dire beaucoup de rigueur au départ. Vraiment, il y a 55 poèmes. Il y a des formes particulières que j'ai travaillées, des tercets, des distiques, des dizains, des rondeaux qui sont répétitifs. Et c'est strict sur le plan formel au départ. Après, après, j'ai essayé de laisser vraiment respirer, que la structure, si vous voulez, puisse se décaler un petit peu, puisse osciller, vous voyez, pour qu'elle ne soit pas que structure, mais qu'elle soit vivante, qu'elle soit vivante.
Et donc, sur l'idée, par exemple, d'un motif, dans un texte qui se répète, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des rimes plastiques, des échos, avec des motifs musicaux qui reprennent ?
Au niveau du rythme et du débit du texte, oui. Il y a des choses qui peuvent se répéter ou il y a des choses qui sont suffisamment parlantes pour la mettre en musique. Donc effectivement, il y a des points de repère comme ça qui font que le vers ou la poésie va fonctionner dans tel ou tel type de musique.
Carrois Saint-Martin, Carrois Louis Labbé,
Carrois aux Herbes,
Carrois des Arcis,
Carrois
au Château,
Cloître de la Psalette,
Place des Chapmans,
du Vert Galant,
Galerie, Escalier,
Rue Colbert,
Montaigne, du Grand Marché,
Femelle,
Rue Blanc.
Sans tout révéler aux futurs spectateurs, peut-être que vous voudriez nous parler un peu de ce qu'il s'entend dans vos textes, de quoi ça parle votre poésie. Du coup, parce que peut-être que vous n'avez pas fait quelque chose dans une veine médiévale, peut-être que vous parlez de tout autre chose. La forme alors, s'apparente
oui,
à...
Mais... Oui, mais au niveau du fond, oui. Alors après coup, parce que... Au départ, je n'avais pas d'a priori, je ne savais pas tellement où j'allais, mais maintenant que le texte est écrit, je peux dire qu'il y a eu deux choses qui ont nourri mon travail. C'est, j'ai puisé dans... Il y a la géographie, ce sont des lieux, il y a 12 territoires et des territoires pluriels, c'est-à-dire, par exemple, les territoires de mon enfance, les Vosges du Sud, les Vosges haute-saônoises, les territoires où j'ai travaillé, par exemple le Houdou, et bien sûr tous les territoires que m'ont fait découvrir Diabolus in Musica. Par exemple, je parle de l'abbatiale d'Issoire, sans Diabolus, j'en aurais pas parlé, j'en ai conscience. Bon, Chambord, j'en ai déjà parlé, mais évidemment Tours, le prieuré Saint-Côme, ce sont tous des lieux que j'ai découverts grâce à Diabolus in Musica. Donc il y a à la fois des lieux qui m'ont construit de mon enfance, puis des lieux que j'ai découverts tout au long de ma vie, voilà, soit par hasard, soit grâce à Diabolus in Musica.
C'est des espaces-temps ?
Pardon ?
C'est des espaces-temps, vos poèmes ?
Oui, même la notion d'histoire, c'est-à-dire, parce que dans les territoires, il y a l'histoire. Par exemple, des fois, j'évoque un petit village, et ce petit village a vécu une tragédie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a la grande histoire qui se mêle à des souvenirs d'un fils avec son père qui se promène dans le village et qui écoute le récit de son père. Vous voyez, il y a l'intime et puis les choses plus universelles qui se mêlent.
Est-ce qu'on peut dire que ce spectacle, c'est un spectacle à quatre voix, puisqu'il y a une voix parlée, une voix chantée et deux instruments, une harpe et une vielle, ou des vielles d'ailleurs. Comment on répartit, la parole entre les instruments et les voix ?
Alors c'est ce qu'on construit durant cette semaine, mais déjà dans les structures des pièces composées médiévales, on a déjà cette organisation à l'intérieur de chaque pièce en fait. Donc on a surtout donc Timothée il parle voilà et Axel prend une voix et puis les instruments ou tout simplement l'accompagner, mais c'est vrai qu'on a à l'époque médiévale en fait ça dépend de quel type de musique soit on a des monodies, c'est-à-dire une seule mélodie qui est chantée par Axel et là on peut soit la laisser toute seule ou alors l'accompagner suivre la mélodie. Et puis sinon il y a les polyphonies où la construction musicale est à plusieurs voix, Donc elle prend une des trois voix ou une des deux voix, si c'est à deux voix ou trois voix. Et puis les instruments prennent l'autre ou les autres parties existantes.
Mais est-ce que est-ce que chaque instrument ou voix a le même statut ou est-ce qu'il y en a un qui soutient, qui accompagne l'autre ?
Ça dépend des pièces. Ça peut être soutien ou alors ça peut être égal, un statut égal, quoi. Ou avoir la même importance que la voix parlée, que la voix chantée.
Est-ce que vous pensez peut-être à un texte en particulier où il y a une thématique, un propos, où vous avez choisi ensemble de se dire bah, « tiens, là, on va mettre plus en avant la musique » ou « là, on va plutôt mettre la musique en soutien, en support du texte ».
Il y a des moments où la musique... Et il y a des moments instrumentaux où c'est la musique, enfin les instrumentistes qui parlent seulement, qui jouent seulement, sans la voix. Donc ça c'est important quand même. Mm-hmm. D'ailleurs moi, ça fait respirer le texte. Entre deux textes, et quand il y a des moments, et vous deux, Louis et toi Nicolas, vous prenez... On vous écoute et moi j'ai eu plaisir à ce temps où l'instrument joue et on l'écoute, quoi. Les voix écoutent, et ça c'est très important. J'espère qu'il y en aura d'autres, d'ailleurs on n'a pas j'espère qu'il y en aura beaucoup,
oui,
d'autres,
il y en aura,
parce que c'est, il y a pas seulement de la voix parlée, de la voix chantée, de la voix parlée chantée, mais il y a des moments vraiment seulement instrumentaux. Et Moi, ça m'a fait... Hier, en répétition, je l'ai apprécié, quoi. Ça m'a nourri, tu comprends, pour repartir après. Parce que je découvre aussi, c'est dans le travail qu'on découvre les choses. C'est pour ça qu'en fin de compte, on ne sait pas encore tout sur ce que nous allons...
Mais c'est passionnant, en tout cas, de voir que c'est vraiment un processus de création, que vous êtes en mouvement, en fait.
Voilà, ah oui, voilà. Oui.
Ça,
ah oui.
C'est vraiment intéressant.
Et ça, je dois dire que c'est le fruit de l'expérience, comme on a eu déjà des expériences précédentes. Ça nous met en confiance pour oser des choses, pour proposer des choses. Moi, personnellement, ça me permet de me remettre en question, d'ouvrir des portes, parce que je sais qu'il y aura le regard bienveillant, mais très compétent de Nicolas. Et ça me donne une liberté, en fait, une liberté nouvelle.
Et pour répondre là à quel type de musique, quel type de voix, en fait, par rapport à quel poème, je crois que c'est pas le sens de la poésie qui va décider de la monodie ou de polyphonie ou de l'organisation musicale. En tout cas, c'est vraiment la structure du poème qui fait qu'on va s'orienter vers tel type de musique. Si on va avoir des vers plutôt longs, on va plus aller vers une monodie, quelque chose qui est dans la longueur, alors que les choses plus courtes vont s'orienter vers de la polyphonie, quelque chose de structuré, plus avec plusieurs voix, quoi.
Quelle place vous donnez au souffle, justement, à la respiration?
Ouais.
Là, c'est de toute façon, c'est là-bas, c'est à partir du souffle que naît la parole. Et il y a des fois des personnes qui opposent, par exemple, parole et écriture. Mais l'écriture et la parole naissent du souffle. Et c'est la parole d'avant la parole qui fait naître et l'écriture et la parole.
Je pense par exemple, je pourrais citer Barbara, quand elle chante, on entend toutes ces respirations, tous ces souffles et tout. Et donc c'est de dire, est-ce que vous considérez que ces respirations, que ces souffles, ça fait partie intégrante du spectacle, de votre travail, ou alors est-ce que vous essayez de les gommer, de les mesurer, de les adapter?
Alors, oui, hier on a parlé pas forcément du souffle, mais du blanc.
Oui, du blanc.
Du blanc.
De l'accident blanc.
Et oui, parce que on a parlé de Thelonious Monk, donc oui, et donc de la... tout le début d'ailleurs, on en a parlé de l'importance du blanc. Donc de respiration qui permettent de longs moments de silence, mais des silences qui parlent, des silences qui sont habités, des silences qui font entendre ce qui a été chanté avant et qui préparent écouter ce qui va être dit ou chanté après. Et oui, oui, c'est fondamental. Sans le souffle qui apprivoise le silence, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de parole, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. C'est la nourriture même de la vie.
Après, peut-être une question sur le, disons, sur la texture, sur le grain de la voix. Comment vous définiriez votre voix ? En tout cas, votre voix quand vous lisez. Est-ce qu'elle est différente de votre voix parlée, disons, dans cette émission, dans le commun ? C'est quoi votre voix ?
Alors, je vais vous donner une anecdote, mais qui a un sens. Quand j'étais très jeune, j'avais fait un spectacle de Thiès de Sénèque dans un terrain vague, immense. Il y avait 1700 mètres carrés d'espace scénique. Enfin, c'était démesuré, c'était bon. Et puis, le jour même, donc on répétait, le jour même après, je vais dans un café et je demande un café. Et j'ai dû répéter 10 fois parce que le monsieur derrière le comptoir ne m'entendait pas. Et la différence, oui, il doit avoir une différence parce que là, cet exemple montre. C'est-à-dire, quelquefois, dans le quotidien, la voix peut s'éteindre, ça arrive. Elle peut. Alors que c'est vrai que quand on est, quand il y a du chant, du poème, enfin, quand il y a un projet comme ça pour où on doit faire partager quelque chose, on a envie de partager quelque chose. Là, la voix peut sortir. Mais je ne peux pas vous en parler parce qu'elle est plus libre que moi. Enfin, Je suis pas, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de... c'est pas moi qui la fabrique, si vous voulez. C'est les musiciens, c'est Axel qui chante, qui vont m'imprégner, qui vont m'aider à trouver ma voix, en fin de compte. C'est la salle. Ici, si on a de la chance d'avoir une magnifique salle, l'acoustique de la salle, on va revenir à l'acoustique, qui imprègne ma voix, et puis il va naître une voix, mais à la limite, je ne la connais pas avant que le spectacle, enfin, que le concert commence.
Et alors, vu de l'extérieur, entre guillemets, elle sonne comment, la voix de...
La voix de Timothée. elle forge l'écoute. C'est-à-dire qu'elle elle se met dans une... c'est-à-dire qu'elle se met dans une disposition qui invite vraiment à l'écoute. Et je crois que c'est la force des silences aussi dans la voix de Timothée qui fait que l'auditeur est happé par sa voix.
Tout à l'heure, vous disiez voilà, qu'il y a une mémoire de l'acoustique, disons un visage de l'acoustique. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
D'un lieu à un autre, on sait que ça ne sonne pas pareil, que la résonance n'est pas la même. On dit, tiens, c'est sec, l'acoustique est sèche, ou alors elle est brillante, ou enfin, il y a tout plein d'adjectifs comme ça. Et donc, ce que j'ai pu vérifier pendant des années, qu'il n'y a vraiment pas deux lieux qui se ressemblent. C'est comme deux visages. Il n'y a pas deux visages. Même des visages très ressemblants ne se ressemblent pas. En fin de compte, il y a toujours quelque chose de dissemblable. Et pour l'acoustique, c'est la même chose. Et ce dont on parlait tout à l'heure, avant l'enregistrement, c'est que ce que j'ai découvert, c'est qu'on a une mémoire, on peut avoir une mémoire de l'acoustique. C'est-à-dire que quand on découvre une acoustique, c'est comme quand on découvre un visage, on est happé, alors là je reprends le verbe, on est concentré sur la découverte de ce nouveau visage, parce que tout est à découvrir, tout est nouveau. Et bien pour l'acoustique, c'est la même chose. Et même si je ne peux pas, par exemple, répéter avant le concert, et je me dis, concentre-toi sur la relation avec les mots de l'auteur. Si par exemple j'interprète Adam de la Halle, pour reprendre quelqu'un du Moyen-Âge, même si je me concentre le plus fortement sur Adam de la Halle, forcément, inconsciemment, je vais être, mon regard va se tourner vers le visage de l'acoustique pour savoir qu'est-ce qui la qualifie, qui c'est, comment elle, vous voyez, quelle est son identité à cette acoustique-là. Et donc, par contre, si je viens 10 ans après, dans la même salle, en quelques secondes, ah, oui, c'est elle, ou c'est lui. Enfin, vous voyez, je reconnais le visage. Elle est restée, j'ai jamais pensé pendant 15 ans, mais elle est restée au fond de moi. Et ça, c'est aussi, j'étais vraiment étonné de ça. Mais c'est vraiment, vous voyez, je ne pouvais pas penser ça, je l'ai éprouvé, quoi.
C'est-à-dire que vous allez me dire si c'est juste, vous dites que vous ne dominez pas complètement votre voix, vous êtes traversé, habité par votre voix, et en même temps, vous avez cette mémoire des acoustiques. Est-ce que vous êtes un médium?
Non, pas du tout. J'essaye de d'avancer, puis je me nourris des auteurs. Je fais une conversation avec les auteurs tous les jours, et c'est eux qui me nourrissent. Et je sais que c'est chaque fois qu'il y a un texte, qu'il y a une musique, qu'il y a une proposition artistique, et c'est ça qui me met en confiance pour me pencher en avant, puis essayer de respirer le plus librement possible. Mais sans cet intermédiaire-là, sans le texte, sans la musique, sans le regard de l'autre, vous voyez, ça disparaît.
Oh,
Une question pour vous, Nicolas Sansarla. Vous, tout à l'heure, vous parliez justement de la sonorité particulière des musiques médiévales, sur l'idée que l'idée de la couleur n'existait pas forcément dans la musique médiévale, et que pour vous, c'est d'abord le geste avant le son. Parce que là, on parle beaucoup de son, de sonorité, de résonance, d'acoustique. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce sujet ?
Oui, moi, je suis très attaché au geste musical, c'est-à-dire quel geste juste, si on peut dire, doit-on apporter à la musique ancienne en général. Et c'est vrai que le phénomène sonore en tant que couleur, c'est quelque chose qui est plus moderne. Pour moi, qui est né avec le XXe siècle, je considère que Ravel, par exemple, c'est un des premiers coloristes de la musique. Alors qu'avant, c'est notre culture qui fait que tel ou tel son va être associé à ça peut être une idée, un sentiment, une émotion. Mais c'est pas le son en tant que tel qui est intéressant, entre guillemets. C'est vraiment au XXe siècle, on va se focaliser là-dessus, le son va devenir vraiment très important au XXe siècle, quoi. Avec, en plus, l'arrivée de l'enregistrement, on a un tout autre miroir sur le son que nous émettons nous-mêmes, que les instruments ou nos voix font avec l'enregistrement. En fait, on arrive à écouter ce qu'on fait nous-mêmes par un phénomène extérieur, en fait. Donc ça, c'est quelque chose auquel je fais attention, de ne pas aller dans l'attraction du son, l'attrait du son, en fait. Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de nouveau et qui n'est pas lié à l'écriture de la musique ancienne, en fait.
Donc, c'est-à-dire que les considérations sur l'acoustique, comment ça sonne, le matériel, tout ça,
elles ne viennent pas en premier lieu.
Oui.
Elles sont importantes parce qu'on est obligé de s'adapter pour pouvoir tisser des liens entre ce que nous faisons et l'auditeur. Mais en tout cas, le travail ne doit pas venir en premier plan sur l'acoustique.
Sur le site de Diabolus in Musica, on lit une musique destinée à l'élévation, à la compréhension et à l'émotion. Alors ça, pour vous, ça veut dire quoi, Nicolas Sansarla ? Et en quoi cette musique, elle peut, disons, parler aux écouteurs de 2026 ?
Oui, alors c'est sûr que c'est que la musique médiévale, ça peut être une musique exotique pour nous aujourd'hui. Et c'est à nous de donner toutes les clés de compréhension sur un monde qui n'existe plus, à la fois qui existe encore parce que on vit dans certains lieux qui ont une histoire et qui existent encore aujourd'hui, qui ont un sens dans l'histoire, et donc on va essayer de comprendre et de savoir de chercher en quoi la musique a-t-elle porté l'humanité, quoi, en fait, c'est ça. Donc nous, on a toutes les clés pour pouvoir donner du sens à ce que nous faisons de cette musique-là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle peut apporter aujourd'hui, cette musique, d'où on vient. Donc c'est à nous de faire tout ce travail pour l'auditeur d'aujourd'hui, quel sens ça a.
Thank you.
Est-ce que vous pourriez intégrer un prochain projet avec Timothée Laine, avec l'ensemble Diabolus in Musica, admettons un slammer ou un rappeur?
Oui, c'est toujours possible, ouais. Ouais.
Comment on équilibrerait ce type de contenu, enfin de phrasé?
Je sais pas, faut y réfléchir. Je sais pas trop. J'y ai pas pensé. Je sais pas.
Est-ce que c'est une façon de dire que vous avez pratiqué déjà?
Alors, j'ai rencontré des slameurs ou rappeurs. On a pu travailler ensemble de façon très temporaire. Hein. Mais ça a toujours été enrichissant pour moi, parce qu'ils avaient des terrains à eux qui ne m'étaient pas familiers. Donc je pense qu'on a, là aussi, il y a eu un échange. Et eux, ce qu'ils ont, c'est, enfin, ceux que j'ai rencontrés, parce qu'il y a tellement de diversité, il ne faut pas ramener à... C'est très divers, hein. Il y a autant de formes de slam que de slameurs, et autant de formes de rap que de rappeurs, presque. Mais la question du rythme, ce qui pourrait nous relier, c'est la question du rythme. Moi, je suis très, très attaché... Le rythme est le visage premier du poème. C'est pour moi. Vous voyez? Donc, évidemment, j'écoute ce que font les rappeurs et les slameurs. Et aussi, même toute leur expérience de vie apporte beaucoup à la poésie contemporaine, parce que, justement, il y a une diversité et ça peut être qu'enrichissant. Et puis, on a des différences, je trouve qu'ils sont très conservateurs sur le plan de la forme, qu'ils aiment les rimes, ils aiment les consonants, enfin les allitérations, les choses comme ça. Et là, je les provoque souvent, mais amicalement. Alors, je trouve qu'ils sont... Mais bon, l'échange est vraiment fructueux. C'est très bien, quoi. Il faut que les énergies soient les plus diverses possibles, de toute façon. C'est comme ça qu'on peut avancer.
Et alors, vous faites aussi, disons, vous contribuez à la recherche artistique, Nicolas Sansarla. Est-ce que vous voudriez nous dire un mot, peut-être, sur le projet ESOAN? Alors, là, c'est l'acronyme. Je vais éviter mon horrible anglais aux auditeurs. Il est question d'une chambre anéchoïque de l'Université de Sorbonne, Paris-Nord. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire?
Oui, alors on a fait plusieurs projets en recherche d'acoustique musicale, à la fois sur des édifices comme la cathédrale Notre-Dame, c'était lié à la reconstruction bien évidemment, et puis avec le bâtiment comme le Palais des Papes à Avignon. Et donc c'était une recherche menée avec Julien Ferrando. Et puis une doctorante, c'était son travail de doctorat, sur l'acoustique musicale de Notre-Dame. Donc certains chanteurs sont allés faire des enregistrements, des expériences sonores dans ce qu'on appelle une chambre anéchoïque, c'est-à-dire une chambre d'enregistrement sans écho, donc c'est une petite pièce, un petit studio avec... je ne sais pas comment, une espèce d'isolant qui a une forme particulière et c'est un matériau particulier au plafond, au sol, sur les côtés, ce qui fait qu'il n'y a pas d'écho dedans. Donc on peut faire tout type de recherche scientifique liée au son dans ce genre de salle. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré la même pièce plusieurs fois de suite, 90 fois, dans différents lieux et dans différents types d'acoustique qui sont projetés dans des casques que portaient les chanteurs. C'est-à-dire que les chanteurs chantaient et ils s'entendaient eux-mêmes à travers le casque dans différents lieux acoustiques historiques qui ont été reconstruits numériquement dans une application, dans un logiciel. Et donc l'idée, c'était de savoir quel impact l'acoustique pouvait avoir sur la manière de chanter.
Et sur la manière de dire, alors?
Certainement, oui.
Ce catalogue, là vous avez un catalogue de visages alors.
C'est ça. Mais j'ai pas vécu hein, l'expérience de Nicolas, donc je découvre. D'ailleurs, je connaissais pas. Hein, je découvre aujourd'hui cette expérience et c'est moi ça me passionne. Mais je ne la connais pas, donc je peux.
Peut-être sur un prochain projet. Après, je vois que vous. Voilà, vos comparses vous attendent, donc je ne vais pas non plus vous retenir trop. Sur cette idée encore de recherche artistique, parce que le travail que vous faites ici en résidence, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a l'idée de trouver, disons, le point de résonance parfait, entre guillemets, où tout s'accorde ? Le son, le texte, le contenu, est-ce qu'il y a un moment où on se dit, là, c'est ça, en fait, on ne peut pas faire mieux, c'est vraiment ça ?
Alors, heureusement... Il y aura toujours de l'imperfection.
Heureusement.
Et ça, moi personnellement, j'en ai pas discuté avec Nicolas, mais moi personnellement, je tiens. Je travaille à pouvoir accepter l'imperfection. Je pense que dans notre humanité, c'est notre vérité, l'imperfection. C'est notre point de vérité. C'est là qu'on Et donc, il ne faut pas en avoir peur. Par contre, il ne faut pas être complaisant non plus avec l'imperfection. Il faut travailler toujours au point de rencontre. C'est ça, je dirais, le point de rencontre. Oui, il faut qu'on se rencontre. Il faut vraiment Et ça, c'est une aventure merveilleuse de se rencontrer pour les choses les plus essentielles, dans des projets les plus essentiels, dans des perspectives les plus importantes. Ça, c'est très important, le point de rencontre. Mais il y aura toujours de l'imperfection et c'est peut-être pas plus mal.
Oui, c'est une manière de se découvrir aussi, de découvrir sur quoi on travaille. L'aspect de la recherche, en fait, alors la perfection, moi j'en suis loin, enfin de la recherche de la perfection, ça m'intéresse pas en soi. Et par contre, c'est vrai que comme on est obligé de restructurer, de modifier ou alors d'écrire, de composer, on se pose toujours la question, mais pourquoi ce texte-là il marche pas avec telle musique et pourquoi ça marche mieux comme ça? Donc du coup, ça donne un regard qui est tout à fait différent par rapport à ce qu'on pourrait faire d'habitude. La recherche est différente en fait. Le fait de travailler sur tel texte et d'essayer de dire pourquoi celui-là il marche pas sur tel type de musique et voilà.
Est-ce qu'à votre avis, les artistes ont une quelconque mission? De réparer le monde, de le rendre plus équilibré, plus harmonieux.
Je pense que essayer de faire entendre sa voix, c'est une façon d'être influent sur le monde, même si c'est de façon toute petite, mais ce presque rien-là, c'est immense. Voilà. C'est ça un peu le propos. Si on fait entendre, si chacun de nous fait entendre sa voix, on touche à l'immense. Et puis aussi regarder dans le monde, parce qu'en même temps il y a les plus grandes tragédies, les plus grandes épreuves, les plus grandes injustices, ce qu'il y a de terrible, on peut l'éprouver. Et en même temps, il y a la beauté, il y a la joie. J'ai cru pendant des décennies qu'il y avait des moments de tragédie et des moments de joie. Et non, j'ai compris, mais il m'a fallu des décennies pour comprendre que la plupart du temps, c'est en même temps. Si vous tournez la tête d'un côté vers un pays, vers un continent, vers une ville, vers un territoire, si vous ne fermez pas les yeux, vous avez la tragédie en face et... C'est insupportable. Quelquefois, on est obligé de fermer les yeux et on les ouvre, on essaye de les ouvrir. Et c'est terrible. Mais ça ne vous empêche pas, en même temps, d'avoir peut-être une énergie tout à fait magnifique qui vous donne justement l'énergie d'ouvrir les yeux devant la tragédie. Enfin, vous voyez, c'est très difficile. J'ai mis des décennies pour comprendre ça. Que dans la même seconde, voilà, c'est dans la même seconde, donc, tout est là, le pire est le meilleur, et qu'il faut vivre avec ça. C'est presque une définition de la vie, moi je trouve, qu'on vit, non
ouais. Après, je ne sais pas si on peut parler de, en tant qu'artiste de réparation du monde. Mais en tout cas, je pense qu'on a notre part sur la diversité des regards qu'on peut apporter sur le monde. Voilà. Mais je ne sais pas si on peut parler de réparation. Après, chacun se place où il veut là-dedans. Mais en tout cas, ouais, notre travail, s'il peut amener une diversité dans les regards, dans les liens qu'on a dans le monde, ouais. Ouais. Moi, je m'inscris en tout cas là-dedans.
Ben, merci à vous. Je vais vous laisser aller travailler sur votre résidence. Alors peut-être qu'on peut rappeler juste que le spectacle, c'est vendredi soir, 18h-20h, salle Hockey Game, une billetterie en ligne. Il faut prendre une place. Bon, faut venir.
Ouais, comme ça, en tout cas, faut venir.
Merci beaucoup.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit. N'ayez pas peur, ce sera tout à fait. Certains endroits parce parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. Juste de la musique, juste des mots.